Chers amis des cellules, bonjour. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent. Mot de contexte, il succède directement aux évangiles de l'enfance et précède le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Je vous lis le texte. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. » N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. » On peut diviser le texte en deux grandes parties. La première partie, c'est l'introduction de Jean-Baptiste et de sa mission, et la deuxième partie, c'est la réaction des gens au ministère de Jean-Baptiste. Critère de division du texte retenu est ici l'apparition de nouveaux personnages, Jean-Baptiste et puis les gens qui réagissent à son ministère d'autre part. La première partie a elle-même deux temps, le premier étant l'appel à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et c'est la pointe de l'ensemble du passage. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Au passage, on voit une continuité avec l'annonce du premier dimanche de l'Avent, le royaume vient, le Seigneur vient régner. Et face à cette annonce, un comportement est requis, celui de la conversion. Commence alors un petit passage qui vient éclairer la figure de Jean-Baptiste, qui va nous donner un peu le contexte. Il est introduit par une parole du prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur » et du prophète Malachie, « Rendez droit ses sentiers ». On a ici une chose importante à remarquer, c'est que donc la parole prophétique est revenue. Il faut se souvenir qu'en Israël, la parole prophétique s'était tue à partir du retour d'exil. À partir du moment où on est revenu de l'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, à partir du moment où le temple a été reconstruit, la voix prophétique s'était tue et elle ne devait revenir qu'à l'époque messianique. Et donc on est en train de dire que Jean-Baptiste est cette parole prophétique et donc que les temps messianiques arrivent. On nous dit encore, lui Jean portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. C'est le vêtement du prophète Élie. Le prophète Élie dont on avait dit aussi qu'il devait revenir avant la fin des temps pour réconcilier le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères. Saint Jean-Baptiste apparaît donc comme le prophète des temps messianiques, celui qui permet d'accueillir la venue du Seigneur. Il nous faut encore préciser ce qu'évoque la phrase « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Cela fait référence en fait au triomphe des rois qui, revenant de campagne, font un grand cortège où ils montrent leur puissance, où ils montrent les prisonniers qu'ils ont rapportés, où ils montrent aussi les richesses qu'ils ont ramenées de leur conquête. Lorsque les Juifs ont été exilés à Babylone, ils ont dû supporter le triomphe du roi de Babylone qui avait manifesté ainsi sa victoire. Or là, ce dont on parle, c'est du triomphe non plus du roi de Babylone, mais du triomphe du Seigneur. Du triomphe du Seigneur qui revient à travers le désert pour faire rentrer son peuple du pays d'exil, pour le ramener sur la terre promise. C'est un triomphe de salut de la part du Seigneur. C'est un salut, c'est un retour d'exil guidé par le Seigneur. Donc la phrase « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers » n'implique pas simplement une action et un effort de l'homme, mais une action et un effort de l'homme allant de pair avec une action divine. Au terme de cette première partie, il y a donc une certaine exaltation qui doit entrer dans le cœur. Voilà le temps du Messie, voilà le temps où Dieu se fait proche, où l'on entend sa voix, voilà le moment où Dieu va apporter sa justice et sa libération. Il y a une exaltation, il y a une joie, il y a un désir qui doit se manifester dans notre cœur. Et de fait, au début de la deuxième partie, on nous l'indique, « Alors Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui, Jean-Baptiste, dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. » Petite précision technique, Jean-Baptiste se met au milieu du Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve au sens qu'il y a de l'eau toute l'année, mais c'est pas un fleuve comme la Seine, c'est pas un fleuve très profond ni extrêmement large. Donc Jean-Baptiste se met au milieu du Jourdain, les gens donc sortent de la terre promise, traversent le Jourdain pour rejoindre Jean-Baptiste, confessent leurs péchés devant lui en implorant la miséricorde de Dieu, puis ils se laissent plonger dans l'eau par Jean-Baptiste, ressortent et vont à ce moment-là à nouveau en terre promise. Il y a donc une symbolique derrière qui manifeste que le péché nous fait sortir de la terre de l'Alliance. Le péché nous fait sortir de la terre promise. Et que la miséricorde que l'on implore de la part de Dieu doit nous permettre de rentrer dans la terre de l'Alliance, de vivre dans la terre de l'Alliance. Le péché nous sépare de cette terre, c'est le péché qui nous met en exil. Et l'on voit que tout le sud du pays, Jérusalem, la Judée, la région du Jourdain, se met en marche pour se rendre auprès de Jean-Baptiste. Il y a un effet d'entraînement. C'est vraisemblablement que les gens entendent parler de lui et se passent le mot les uns aux autres. Peut-être qu'à leur suite, nous avons nous aussi à nous passer le mot les uns aux autres pour nous inviter à la conversion, pour nous inviter à rentrer dans la terre promise. Dans cette deuxième partie du texte survient alors un deuxième temps, avec à nouveau une apparition de personnages, ou plutôt un zoom, autour des pharisiens et des sadducéens. Et nous allons voir la réaction de Jean-Baptiste par rapport à la démarche qu'ils sont en train de faire. « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?»« Fils de vipère, fils de serpent, c'est plutôt vigoureux comme interpellation. » Mais quel est le sens de justement de cette vigueur ? L'interpellation est vigoureuse parce qu'ils sont en train de passer à côté de la vérité de la démarche. La colère qui vient, ce n'est pas une fureur aveugle, hein, souvenons-nous-en. La colère qui vient, c'est une expression qui désigne le moment où Dieu va porter son jugement, c'est-à-dire où il va rendre à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire c'est aussi le moment où Dieu met fin à la méchanceté des hommes, où Dieu fait droit aux cris des opprimés qui montent vers lui. C'est cela que signifie cette expression. Fuir la colère qui vient, cela signifie donc se mettre en état de bénéficier positivement du jugement que Dieu exercera. D'où la reconnaissance du péché du grand nombre, « Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde, nous avons besoin de ton œuvre, parce que nous avons péché. » Ce qui est surprenant, c'est que Jean-Baptiste interroge en disant « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» C'est-à-dire sur l'identité de « Mais qui est-ce qui vous a enseigné ?» à fuir la colère qui vient. Et derrière ça, il y a l'idée, c'est que ce qu'il vous a enseigné, ça ne correspond pas, ça ne va pas. Celui qui vous a enseigné, celui que vous avez écouté, ne vous donne pas le chemin. Produisez donc un fruit digne de la conversion, ce que vous ne faites pas pour le moment, parce que vous n'avez pas écouté la bonne personne. Qui ont-ils donc écouté ? La façon dont il les a interpellés nous en donne un indice. Engeance de vipère, fils du serpent. Fils de celui qui a une langue fourchue, c'est-à-dire qui a un double discours, fils du diable, d'une certaine manière. C'est ça qu'il entend de façon à la fois un peu cachée, mais tout à fait compréhensible. Il met les pharisiens, les sadducéens devant une révélation. Leur hypocrisie ne leur permet pas de passer devant le jugement de façon bénéfique. Leur hypocrisie, en fait, les condamne. Qu'ils reviennent donc de cette hypocrisie et portent un fruit qui manifeste une véritable conversion. Jean-Baptiste les invite vigoureusement à sortir d'une illusion, celle que leur lignée, fils d'Abraham, descendance d'Abraham, leur lignée spirituelle, on dirait aussi, héritier de la promesse, héritier de l'alliance, de la loi de Moïse, ne leur servira de rien si leur comportement, si leur façon d'agir ne se transforme pas. Il y a une illusion dangereuse à se dire « puisque je suis descendance d'Abraham, je n'aurai pas de péché », ou bien de croire « il suffit que je dise que je suis pécheur, mais ce n'est pas la peine de changer quoi que ce soit à mon existence ». Non, Jean-Baptiste prend cette image, la cognée de la hache se trouve à la racine des arbres. Il vous faut produire de bons fruits, sinon vous allez être coupés et jetés au feu. Il y a une imminence du jugement et donc une imminence aussi d'un fruit de conversion apporté. Cette deuxième partie du texte connaît alors un troisième temps avec l'introduction du personnage de celui qui vient derrière Jean-Baptiste, le plus fort que lui, ce sera donc Jésus, qui va baptiser dans l'Esprit Saint et qui va exercer un jugement entre le blé et la paille. Mais comprenons bien, ce discernement entre le blé et la paille, ce n'est pas un jugement en gros. Ce n'est pas « ah, tu as une imperfection, donc au feu, on va tout jeter ». C'est un discernement qui va aller jusqu'à l'intérieur du cœur de l'homme, ce cœur de l'homme qui est compliqué et malade, comme le disait le prophète Jérémie. Et donc, cette parole du jugement est une bonne nouvelle. Voilà que ce qui en nous résiste à la parole de Dieu va pouvoir être touché par celui qui vient. Il va pouvoir y avoir une distinction dans mon cœur où ce qui est rebelle, ce qui résiste, va pouvoir être brûlé afin que ne soit conservé que ceux qui veulent pleinement s'engager dans l'Alliance. Vous voyez, il ne faut pas prévoir, ou je dirais recevoir le jugement comme la claque qu'on a envie d'éviter à tout prix, et donc planquons ce qu'on aurait fait de mal pour éviter à la claque. C'est au contraire ouvrir la difficulté, la complexité de notre cœur pour que l'action de Dieu puisse y travailler en profondeur, brûler ce qui est rebelle, ce qui est malice, ce qui est méchanceté, ce qui est habitude du péché, pour conserver ce qui est générosité, pour rendre la liberté à notre capacité d'aimer, pour lui donner de s'épanouir, libéré de ses chaînes de la malice. Il nous faut sortir de l'idée que s'il y a du pourri, on va tout jeter. Non, on va enlever, corriger. Mais il est vrai que si l'on ne fait rien, le pourrissement va s'étendre. Pour prendre une image, c'est une fausse bonne idée que de laisser la carie progresser parce qu'on a peur de la fraise du dentiste. Peut-être, il est vrai, nous avons été échaudés par de mauvais juges, et c'est ainsi alors que nous regardons encore le Seigneur et son œuvre, comme si c'était ce jugement une méchante opération. Au terme de cet enseignement, je vous invite à vous interroger, comment percevons-nous le jugement de Dieu ? Est-ce que nous n'y pensons pas ? Est-ce que nous en avons peur? Ou est-ce que nous le lisons comme une bonne nouvelle? C'est l'occasion pour nous d'être corrigés, mais pour être élevés, parce qu'il nous aime, c'est pour notre vie que ce moment intervient. Est-ce que nous percevons le jugement comme une claque à éviter, ou bien comme l'acte de libération, de mise en liberté, de mise en capacité à aimer en identifiant et brisons les chaînes. La semaine prochaine, en complément de cet appel à la conversion et de l'annonce du jugement prochain, nous mettrons l'accent sur l'œuvre de la miséricorde du Christ. Je vous souhaite de bons échanges.